Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie, non pas tout à fait en notre compagnie, mais plutôt au bout du fil, Élisane Pellerin pour la revue de presse. Bonjour Élisane. Oui, je vous entends mal.
Je ne sais pas si elle nous entend. Élisane?
Ah, Élisane n'y est pas. Que cela ne tienne, elle va nous rappeler, j'en suis sûr, sur un autre canal. Ben, on s'était parlé la semaine dernière des élections au Parlement européen. Ben voilà, c'est chose faite. Les élections ont eu lieu depuis jeudi, et ça s'est terminé surtout hier, dimanche, le 9, là où les plusieurs pays ont voté en même temps. Ça avait commencé jeudi aux Pays-Bas, mais ça s'est terminé en France et en Allemagne et en Italie hier, dimanche. Et on anticipait un peu les plateformes électorales des différents pays partis en liste, et on avait l'impression que peut-être que les partis qui avaient un petit peu plus du côté gauche du spectre politique avaient dans leur programme des mesures spécifiques ou des intentions spécifiques à l'intention des personnes qui sont en situation d'handicap, un peu plus de toute façon que les partis qui étaient à droite. Ah, voilà que l'élection européenne a mis en lumière un désir de la population européenne de virer plutôt du côté droit. Alors, des 38 partis en liste pour les élections européennes en 2024 en France, seulement 12 de ces 38 partis français mentionnent le handicap dans leur profession de foi. Pourtant, il y a 12 millions de Français qui sont en situation d'handicap. Les promesses épluchées en détail pour le vote qui a eu lieu hier, ben, ça allait pour ces 12 partis. Ben, des fois, c'était juste des petites intentions du bout des lèvres. Malheureusement, le parti le plus fort d'entrée de jeu, Renaissance, qui était le parti de la majorité d'Emmanuel Macron, avait en tête de liste Valérie Hayé, promet d'accélérer la mise en accessibilité des bâtiments de services publics et les logements pour les personnes en situation de handicap. Mais tout ça, c'est un peu curieux parce que ça a été dit haut et fort dans un programme qui, malheureusement, n'est pas lui-même accessible en ligne. Alors ça, c'est un petit peu ironique. Voilà. Alors, ces partis ont certains comme Europe Écologie ou Écologie au Centre avaient aussi des promesses, je dirais, pleine de vertus, mais il faudra voir si ça va se traduire par des actions. Maintenant qu'on a vu, il y a une élection législative qui vient tout juste d'être déclenchée pour la fin du mois en France. Bonjour, Élisane.
Bonjour.
Hein, ah là là, hein, il s'en est passé des choses en Europe hier.
Il s'en est passé pas mal de choses en Europe. Il y a eu effectivement les élections dont vous parlez, François. Mais effectivement, là, au niveau de l'handicap, là, c'était pas très présent sur les plateformes, donc il faudra voir de quelle façon dans les prochaines semaines ce sera mis d'avant ou non par les partis qui ont été élus.
Oui, parce que malheureusement, ceux qui parlaient d'handicap ou mentionnaient ou avaient des promesses à ce sujet-là, je pense, ont plutôt mordu la poussière.
Oui, mais c'était des partis principalement mineurs aussi, hein. On ne s'attendait pas à ce que la plupart d'entre eux là, aient beaucoup de sièges, puis effectivement, c'est ce qui s'est passé.
Exact. Alors là, il faudra voir un peu comment ça va, tout ça va se décanter. Les questions d'immigration et d'économie vont prendre pas mal toute la place. Je pense que l'inclusivité ou l'accessibilité là, va être un petit peu en retrait. C'est à suivre, surtout avec l'élection législative que président Macron vient de déclarer en France, je pense que c'est le 29 juin, si je ne me trompe pas. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, Chartres a sa charte.
Oui. Donc, maintenant, on a une nouvelle charte ville handicap qui vient tout juste d'être signée cette semaine, François. Donc, une charte sur le handicap en ville que les GIE ont voulu faire évoluer. Donc, on a accentué l'engagement public sur la thématique du handicap à travers de nouvelles mesures plus fortes en faveur de l'intégration des personnes en situation de handicap. Entre autres, on a donc signé une nouvelle charte qui s'appelle « Charte de ville handicap » dans le cadre de la troisième édition du Handi-Village, ce qui va permettre, en fait, effectivement, d'améliorer les services aux personnes en situation de handicap. Et il y a plusieurs associations, dont APF France Handicap, qu'on connaît bien, qui ont signé cette charte.
Bravo. Ben ça, c'est à Chartres. Dans la Loire, ils ont un problème de transport adapté, puis ça fait étrangement écho à ce qui se passe ici.
Oui, bien, écoutez, François, après, on se ressemble un petit peu là, au niveau de ce qui se passe dans les services, c'est-à-dire qu'on manque de personnel, on manque de budget, et bien sûr, au niveau du transport de pire, c'est pas toujours ce qu'on va maintenir en premier. Donc, on parle effectivement de l'annonce de la suppression du texte adopté à Loire. Donc, il y a eu des réponses assez agressives de la part de différentes personnes, dont des organismes de personnes pour la défense des personnes en situation de handicap. On a mis en ligne une pétition parce que effectivement, le département du taxi a demandé donc pour les personnes vivant à moins de 5 km de l'école ou à moins de 10 km de leur collège ou de leur lycée, ils n'auront plus le droit au transport adapté, même s'ils sont en situation de handicap.
Alors, on pense qu'en dedans de 5 km, la famille peut toujours se débrouiller.
Oui, on peut moyenner autrement, tout du moins, là, puis que la personne en situation de handicap là, pourrait prendre des services réguliers ou, justement, c'est ça, se fier à sa famille, mais effectivement, là, ça cause problème au niveau de l'indépendance de ces personnes-là, évidemment.
Ben oui, tout à fait. Donc, une pétition qui a été lancée lundi dernier, le 3 juin, ben, on verra qu'est-ce que tout ça va donner parce que le transport adapté, c'est compliqué, puis ça peut parfois être lourd un peu à organiser puis à maintenir, mais sans ça, ben, il n'y a pas d'autonomie. Et sans autonomie, il n'y a pas de dignité.
C'est vraiment pas un service qui, de façon générale, est optimiste, optimum, on devrait dire, parce qu'effectivement, là, il y a mieux, évidemment, ce serait d'avoir des transports réguliers, adaptés pour tous, et ce serait beaucoup plus facile que de devoir réserver à l'avance le transport et tout ça, mais faute de mieux, d'enlever un transport adapté sans avoir une solution de rechange, là, c'est pas du tout un pas en avant là, qui vient d'être fait dans cette région de France.
Non, on appelle ça un saut en arrière, voilà.
Oui, voilà.
Au lieu d'être un pas par en avant. En parlant d'accessibilité, tout d'un coup, et ça, je sais que ce n'est pas un moyen de transport auquel on pense souvent quand on habite dans la vallée du Saint-Laurent, le transport aérien par câble. Ça, c'est ce qu'on appelle ici couramment des téléphériques.
Oui, en fait, donc, on a un nouveau transport par téléphérique donc qui va être accessible. On n'a pas Marc qui présente, qui est une compagnie qui présente en avril 2024 une cabine plus spacieuse et adaptée qui vient d'être mise en service. Donc, effectivement, là, pour le téléphérique, ce sera plus facile là, pour les personnes en situation de handicap d'y accéder.
Tout à fait. Et ça, ça a été présenté à Grenoble. Grenoble, évidemment, une ville de montagne dans les Alpes. Et là, évidemment, on peut penser que le transport... Vous savez que le transport par câble, là, les gens pensent toujours que c'est des... Il y a des gens qui ont littéralement peur de prendre le téléphérique, là. Mais vous apprendrez que le mode de transport le plus sûr au monde, après le transport aérien... Hein? Alors, il y a 1,28 accidents par 100 millions de voyages. Alors, c'est presque rien. C'est sûr que ça
on
fait toujours.
Hein? Le REM par
un transport. Ben, peut-être qu'on devrait faire un REM par câble. Voilà, peut-être ça irait mieux. Parce qu'effectivement, c'est sûr que c'est toujours un peu spectaculaire quand on parle d'un téléphérique qui décroche, là. Ça fait peur. Il y a des gens qui n'aiment pas les altitudes. Mais pour avoir pris le téléphérique, même dans des villes qui était relativement plane. Il y a, entre autres, à Madrid, un excellent téléphérique qui traverse presque la moitié de la ville. C'est à peine s'il y a une pente, mais il passe au-dessus d'un parc et de d'autres obstacles. Et ça fait vraiment une différence. Alors voilà, à Grenoble, donc, on a mis en service un téléphérique dont les cabines sont adaptées. On peut y accueillir de 12 à 18 passagers. Et avec leurs bagages, leurs vélos, les poussettes et évidemment les fauteuils pour les personnes qui ont une mobilité réduite avec une grande porte très large puis un plancher plat. Alors, il fallait juste y penser. Tout ça, ça se passait en France, mais il y a de l'action aussi du côté de l'Afrique occidentale.
Oui, j'aime bien vous faire un petit tour en Afrique quand on a des nouvelles de leur côté. On y va pas souvent, François, mais effectivement, donc, une nouvelle qui nous vient du Bénin. On sait que, bon, souvent en Afrique, malheureusement, là, ici, on parle du Bénin au niveau des droits des personnes en situation de handicap, c'est encore à construire. Par contre, le gouvernement lance une étude pour améliorer l'accessibilité des communications électroniques au Bénin. Donc, on veut s'assurer que tout le monde ait un accès équitable à Internet et puis qu'Internet soit mieux adapté aux personnes qui ont des besoins particuliers, y compris les personnes en situation de handicap.
Et ça a été lancé par Émile Koubadi, qui est le directeur général de l'association pour les personnes handicapées au Bénin. La méthodologie de travail sera participative, donc on va demander à des experts, mais aussi à des utilisateurs des usages numériques et autres secteurs, afin de recueillir leurs attentes pour un Internet qui soit plus... plus accessible. Alors, dans ce sens-là, ben, c'est une fort bonne chose. Quand on demande l'opinion en amont, généralement, on a de meilleurs résultats.
Oui, on a de meilleurs résultats, mais des résultats qui prennent plus en compte donc les réalités sur le terrain, parce que des fois, les chercheurs, même si on essaie de faire de notre mieux, on n'a pas nécessairement là, tous les chapeaux. Donc, on oublie, hein, on a des bouts auxquels on n'a pas pensé. Donc, en allant voir directement les utilisateurs, les personnes qui vivent au quotidien avec ces technologies-là, c'est beaucoup plus facile de penser à des choses qu'on aurait oubliées. Puis également, ben, c'est sûr qu'à plusieurs têtes, au niveau des innovations possibles, plus on est de tête, plus on peut réfléchir à quelque chose d'innovant et peut-être un peu sortir de la boîte, là, comme on dit. Oui. Donc, c'est toujours quelque chose qui donne de bons résultats lorsqu'on va consulter la population, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des ressources, mais qui ont d'excellentes idées. Donc, si on met les ressources en lien avec les idées des personnes, on peut arriver à de fort bons résultats.
Et on va s'en reparler dans quelques minutes, parce que dans quelques minutes, on va tomber sur des nouvelles où ces consultations-là, parfois, ont été bien faites et d'autres fois, on manquait peut-être.
Oui, vous me connaissez, François. Je retourne s'en vient avec quelque chose un peu moins positif après.
Oui, voilà. Bien, puis on va atterrir tout de suite dans les provinces atlantiques, en Nouvelle-Écosse. Les efforts du gouvernement tombent à court.
Oui, effectivement, François. Donc, malgré le fait que la Nouvelle-Écosse est tentée de se rendre plus accessible, on a quand même donc critiqué la Nouvelle-Écosse parce qu'effectivement, il y a une décision de la Cour d'appel qui est tombée à la Nouvelle-Écosse comme quoi. En fait, le gouvernement devait sortir des résidences des personnes avec des handicaps au niveau intellectuel. Et en fait, le gouvernement a dit qu'à partir de janvier 2025, il arrêterait de mettre des gens dans les résidences, donc d'admettre de nouvelles personnes dans ces résidences-là, ce qui est effectivement là, la première étape. Oui. La première étape étant d'arrêter d'en mettre des gens, et la deuxième étape étant de déménager les gens qui sont déjà là, mais au niveau des associations de défense des droits des personnes en situation de handicap, on trouve que ça va pas assez vite, c'est que janvier 2025, d'arrêter d'en mettre des gens en janvier 2025, c'est trop tard, et qu'on devrait aller beaucoup plus vite pour respecter ce que la Cour d'appel a
statué en 2021, il faut le dire. Alors, oui. C'est depuis 2021 que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a été placé au pied du mur, avait fait émis une politique qui devait se traduire à partir de mars de ce printemps en des changements. Mais voilà que le gouvernement dit « ben non, ce ne sera qu'en janvier 2025 ». Déjà, il y a 1500 personnes handicapées qui attendent de recevoir des services auxquels ils ont droit en Nouvelle-Écosse. Et il y en a là-dessus, il y en a 500 qui n'en ont aucun de ces services.
Oui, effectivement, et quand on parle de janvier 2025, je le répète, c'est d'arrêter d'admettre de nouvelles personnes dans les résidences et non pas de fermer ces résidences
comme
ça avait été demandé.
Oui, il y a loin de la coupe aux lèvres. On s'en reparle après la pause, Élisane.
Vous pouvez écouter Canal M Détour avec François Beauregard.
Et avec Élisane Pellerin, on continue la revue de presse. La ministre Sonia Bélanger a mis beaucoup d'argent sur les soins à domicile au Québec.
Oui, on parle de 200 millions de dollars sur 5 ans qui viennent d'être annoncés pour les résidences pour aînés. Ça a été annoncé donc le 31 mai dans un plan pour répondre au vieillissement de la population. Donc, on veut augmenter le soutien à domicile là, pour effectivement éviter au mieux les placements ou du moins les retarder déplacements dans des institutions et dans des CHSLD parce qu'on sait évidemment que ça coûte cher à l'État et qu'on manque de place. Donc, on espère qu'avec un meilleur service à domicile au niveau des soins, on va pouvoir garder plus d'aînés à la maison le plus longtemps possible. Dans le but, effectivement, là, à la fois de favoriser donc, le maintien à domicile parce que c'est mieux pour les personnes âgées lorsque c'est possible, mais également là, pour désengorger les temps.
Exactement. Et ça, c'est rien de surprenant. 25 % de la population, le quart de la population du Québec en 2030 aura 65 ans et plus. Et certains d'entre nous y sont déjà. Voilà. Et c'est une situation démographique qui est commune à tous les pays industrialisés. La chute de la natalité depuis le milieu des années 60 ben, fait que les populations vieillissent et il va y avoir des problèmes de financement de soins de santé, financement des pensions, ainsi de suite. Et il faut tout créer une infrastructure pour accueillir les aînés. Alors, oui, c'est bien qu'on mette de l'argent et c'est pas d'avance qu'on le met. Alors, bravo. Ben, c'est sûr que les soins à domicile, c'est préférable pour tout le monde pour la personne qui reçoit les soins, ainsi de suite, pour la famille. Mais il faut pas non plus que ça devienne une façon de délester le système et de demander à des proches aidants de faire plus qu'ils ne font ou ne font déjà, n'est-ce pas?
Oui, ben effectivement, là, c'est un petit peu ce qui se passe dans les dernières années. Hein, c'est-à-dire que, oui, les soins à domicile, mais les soins à domicile sont inadéquats et souvent, on n'a pas assez d'heures d'attribuer hein, parce qu'on manque de personnel, on manque de ressources. Donc, on maintient les gens à domicile mais avec un service qui est de mauvaise qualité. Donc, on espère effectivement que ces 200 millions-là va pouvoir donner les services dont les personnes en situation de vieillissement ont besoin et non pas simplement, comme je le disais, pallier aux besoins du gouvernement, mais bien répondre aux besoins et aux attentes des personnes vieillissantes à la maison.
Tout à fait. Alors, ben, on vise à offrir ces soins à plus de 400 000 personnes par année. On espère qu'on va être au rendez-vous. Il y a des maisons pour aînés, il y a des logements abordables qui s'en viennent, mais on a hâte de les voir. Il y a l'augmentation du soutien à domicile, fait partie justement de tout cet effort, parce qu'il y a une crise, on en a parlé dans les RPA, les personnes en perte d'autonomie, et dans les CHSLD, là, il y a des problèmes. Tant et si bien que même le journal Les Affaires, que l'on n'associe pas nécessairement à des causes d'inclusion ou de justice sociale, à prime abord, s'interroge sur les mesures qui ont été adoptées plus tôt cette année pour sauver les RPA.
Oui, effectivement. Donc, les propriétaires d'entreprises, parce que en fait, c'est pourquoi le magazine s'y intéresse, c'est que les RPA deviennent des entreprises privées à but lucratif et on voit un modèle un peu capitaliste qui vient s'installer au travers de tout ça et effectivement là, ça lève un drapeau rouge parce que le premier but de tout ça ça serait évidemment d'offrir des services adéquats à des prix qui sont raisonnables et dans les faits là, évidemment c'est pas ça qui se passe en ce moment, les prix augmentent, non seulement le prix des loyers mais le prix des services augmente énormément. Ce qui fait qu'on est en crise au niveau des personnes qui ne peuvent plus payer leurs soins et leur logement. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, on manque de place. Donc, il va falloir revoir le système là, pour être capable de faire en sorte que les RPA reviennent à leur but premier, c'est-à-dire offrir un service de qualité à des coûts raisonnables.
Exact, parce qu'il y a eu d'abord, au courant d'hiver, on a vu des RPA qui ont fermé.
Oui.
On voyait la situation scandaleuse d'aînés qui étaient littéralement là, jetés à la rue ou qui se retrouvaient sur le trottoir. À toute vapeur, le gouvernement a dégagé 200 millions de dollars sur 5 ans pour maintenir l'offre des logements pour les personnes, pour les aînés. Cette nouvelle aide financière permet, dans les faits, au gouvernement de pallier à ses propres manquements en hébergement de longue durée, affirme le journal Les Affaires. Le Soleil faisait, entre autres, état dans un article en mars de situations où il y avait des résidents qui devaient se retrouver avec des hausses radicales de loyers parce qu'on leur ajoutait à leur coût de location toutes sortes de services à la carte.
Oui.
Et ça donnait, on avait vu la manchette, je pense, quelqu'un devait payer, une dame dans la région de Québec devait payer un loyer qui avoisinait les 100 000 $ par mois. C'était hallucinant. Là, encore une fois, c'est des situations qui n'ont pas de sens et qui doivent être corrigées. Voilà.
Oui, effectivement. Alors, on doit s'y attaquer, bien sûr, parce que, les personnes, quand les RPA ferment, les personnes qui sont en situation de vieillissement, alors, vous dites, là, se retrouvent à la rue. Et donc, on ne fait que déplacer le problème parce que ces personnes-là vont aller dans des ressources là, pour personnes itinérantes, éventuellement aller à l'hôpital. Et donc, voilà, on déplace le problème plutôt que de trouver une solution. Et actuellement, là, ça fait plusieurs mois que ça ne fonctionne pas. Et que, je vous le disais, le système au niveau de la façon de fonctionner commence à être très capitalisé et les prix n'ont aucun sens pour des personnes qui sont à la retraite, qui ont des faibles revenus. Et donc, il faut trouver une façon de remettre tout ça sur pied. Et 200 millions, c'est un début, mais il faut vraiment vraiment réfléchir à mettre sur place d'autres opportunités pour vraiment régler le problème en profondeur parce que 200 millions, ça ne suffira pas.
Oui, tout à fait. Surtout si on les répartit sur quelques années. Là, on va parler de train puis des deux côtés de la médaille. Hein. Il y a chez VIA et dans le REM. Hein. On a deux nouvelles côte à côte.
Oui, Paris Transport.
Voilà, deux nouvelles côte à côte qui sont comme les deux côtés de la médaille. Alors, chez VIA, on dit bienvenue à bord. La conception accessible de la nouvelle flotte de VIA Rail comprend entre autres l'élaboration d'un plan de toutes nouvelles exigences, mais VIA Rail réfléchissait déjà sérieusement à la question de l'accessibilité depuis plusieurs années. VIA savait qu'il ne ferait pas les choses correctement à moins de consulter directement les personnes en situation d'handicap. Voilà.
Oui, effectivement. Donc, ça vient du plan de 2020, donc VIA Rail qui avait adopté une politique d'accessibilité universelle et qui a commencé donc à regarder au niveau des différents experts, mais également au niveau des gens qui prennent le train de façon régulière pour essayer d'avoir justement, on en parlait un peu là avec le cas du Bénin, donc d'avoir une meilleure vue sur la situation et sur les besoins des personnes utilisatrices. Donc, effectivement, en 2003, VIA Rail a commencé à utiliser sa nouvelle flotte dans le corridor Québec-Windsor, qui est un corridor très utilisé par VIA Rail.
Tout à fait.
Et en ce moment, donc, les nouvelles flottes, ça se poursuit au niveau de l'installation dans tous les voyages qui sont proposés par VIA Rail au niveau de 2024.
Et pour réaliser cette conception d'accessibilité, VIA Rail s'est adjoint les services ou a consulté le Conseil canadien des aveugles, Lésion médulaire Ontario, Service canadien de Louis, la Fondation Rick Hansen, l'Alliance canadienne des arthritiques Autisme Canada, l'Association des sourds du Canada, Kéroul, qui est un organisme à but non lucratif qu'on connaît bien ici pour ses suggestions de voyages accessibles. Alors, cette méthode a porté fruit et l'année dernière, VIA Rail a commencé à utiliser sa nouvelle flotte dans le corridor, comme vous le dites, Québec-Windsor. La mise en œuvre touchera 32 nouvelles voitures et ça va se poursuivre en 2024. Les nouvelles voitures comprennent des places plus grandes, capables d'accueillir des fauteuils roulants ou des chiens d'assistance. Il y a une signalisation tactile en braille, des toilettes accessibles, des ascenseurs ou des plaques élévatrices intégrées dans chaque voiture et des annonces visuelles et audio pour les passagers. Alors voilà, tout ça chez VIA, grâce en bonne partie à une consultation en amont. Bravo, VIA!
Oui, c'est pas trop parce que avant ces nouvelles... Avant cette nouvelle fiature, donc dans les anciennes fiatures, au niveau de l'accessibilité universelle, là, on partait de loin. C'était très, très difficile pour les personnes en situation de handicap d'avoir de l'espace, entre autres, là, pour les chiens, pour les toilettes et tout ça. Il n'y avait rien adapté. Donc, on espère que les nouvelles fiatures seront mises de l'avant sur les voyages le plus rapidement possible là, pour les personnes qui en auront besoin.
Bravo, oui, voilà. Et bon, toujours dans l'univers du transport, parce qu'il y a toujours des progrès à réaliser, Chronique Aviation, le groupe WestJet publie un premier rapport.
Oui, le groupe WestJet qui publie un premier rapport, donc, par rapport à son rapport d'accessibilité. On a il y a plein sur l'accessibilité. Un an après sa première version, on regarde ce qui a été fait. Donc, pendant l'année, on réalise, on souligne les projets, les progrès, dis-je, réalisés pour l'accessibilité du transport aérien pour les personnes en situation d'handicap. Entre autres, on parle de 3 améliorations particulièrement utiles. On parle donc d'un service de suivi pour les personnes en situation d'handicap de leur matériel, donc de leur fauteuil roulant, au moment où ils vont être embarqués dans l'avion, ils vont pouvoir le suivre grâce à leur téléphone, donc s'assurer que...
Ils s'en vont à la bonne destination.
Que ça a bien été embarqué, puis ça s'en va à la bonne destination. Bon, c'est basique, mais rappelez-vous, François, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a quand même eu beaucoup de fauteuils qui ont été perdus et ou envoyés à la mauvaise place. Donc, un service tout simple, mais qu'on espère là, va éviter... des bavures comme celles qu'on a vues dernièrement.
Exact, tout à fait. Alors, ils offrent un service de repérage pour suivre, s'assurer que son équipement, son fauteuil, va bien et bien suivre le passager, la passagère, et également d'améliorer l'accessibilité, mais aussi la formation des employés. WestJet, un peu comme Air Canada, avait été au banc des accusés cet hiver. Et bon, ben ils essayent de montrer patte blanche et de faire des progrès dans ce sens-là. Alors, tant mieux si toutes ces récriminations, finalement, ont trouvé un écho. Ah, ben voilà, en parlant de train ou d'adaptation, le REM, qui d'autre, a encore des croûtes à manger.
Oui, bien, on n'en a pas rien dans les dernières semaines, le REM qui n'est pas tout à fait là, à la hauteur des attentes. Entre autres, on parle du protocole d'urgence pour les personnes en situation de handicap qui n'est vraiment pas efficace. Il y a une personne, une utilisatrice, alors que le REM a été en panne et que des services donc d'autobus, de navettes ont été déployés parce que c'est ce que le REM a prévu. Là, donc, en cas de panne, il y a des services de navettes déployés pour les gens pour qu'ils puissent se rendre à destination. Mais ces navettes-là n'étaient pas accessibles pour les personnes en situation de handicap.
Voilà. Alors, le REM tombe en panne, c'est en soi déjà un peu un problème. Mais qu'en plus, comme vous dites, pour pallier la situation, il y a des navettes d'autobus qui sont offertes de toute urgence, mais ces autobus-là eux-mêmes ne sont pas adaptés. Alors, on a platement dit aux passagers qui avaient besoin de transport adapté, ben appelez-vous un transport adapté. Mais comme on sait que ça prend 24 heures, ça fait une longue veillée.
Le transport adapté, bon, il faut qu'il soit... appeler à l'avance, donc effectivement, ils vont nous l'envoyer s'il y a un transport de disponible, mais comme il n'a pas été pris à l'avance, ils n'ont pas l'obligation de nous l'envoyer, donc effectivement, ça peut prendre plusieurs heures avant de trouver un transport pour les personnes en situation de handicap qui en ont besoin, et donc la réponse facile est toujours de dire aux gens de se trouver un transport adapté, mais dans les faits, le transport adapté n'est pas conçue pour répondre à ce type d'urgence-là. Et
Exact.
donc, le RAM va devoir revoir sa façon de fonctionner. On assure au RAM, à François, que, il y a eu une bavure, que les plans d'urgence sont bien établis, que ça n'aurait pas dû arriver. Mais dans les faits, là, ce qu'on a vu sur les lieux, c'est qu'effectivement, le plan d'urgence n'a pas fonctionné comme prévu.
Exact. Et ça s'ajoute aux ascenseurs qui sont défectueux et à des problèmes de signalisation. Alors, parfois, on a l'impression que le REM est arrivé en service un petit peu trop vite, là, mais ça, c'est juste une impression que
Oui,
j'ai.
ben écoutez, on a l'impression qu'on voulait le mettre en service rapidement là pour répondre aux besoins, prendre des photos et faire bonne figure. Mais dans les faits, depuis que le RAM a été mis en service, effectivement, on a des petits problèmes techniques de part et d'autre.
Ouais.
Et ça s'accumule, là, François, depuis quelques semaines.
Tout à fait. Bon, on va revenir après la pause, on va parler culture. Ah, un régal. C'était Peaches and Regalia de Frank Zappa, tiré de son album Hot Rats. On est en 1969. Frank Zappa, qui nous a quittés il y a déjà plus de 20 ans, à peine dans la cinquantaine, décédé d'un cancer de la prostate. Cela dit, un des plus grands compositeurs contemporains, souvent méconnu, parce qu'on a tendance à le coincer dans la catégorie rock, là, mais c'est bien plus que ça, Frank Zappa. Voilà, comme on vient de l'entendre. Parlons culture. Il y avait dans la presse, sous la plume de Stéphanie Morin, il y a quelques jours, un excellent article qui faisait un peu le tour des adaptations dans le domaine culturel pour rendre la culture, les arts de la scène, entre autres, plus accessibles aux personnes qui vivent avec des déficiences visuelles ou auditives. Élisane, on en a pris connaissance. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé?
Ben, entre autres, on a trouvé des services au Rideau Vert, là, qui est quand même un théâtre d'envergure à Montréal. Oui. Le Rideau Vert qui offre des services destinés aux personnes non-voyantes, donc des visites tactiles, des décors. Donc ça, c'est intéressant quand même, hein,
oui,
qu'on
tout à
puisse
fait.
toucher les décors. On veut aussi rendre accessible les salles aux personnes vivant avec une limitation physique, visuelle, mais aussi auditive. Donc, il y a une soixantaine d'organismes qui travaillent depuis 2 ans pour atteindre cet objectif, entre autres, d'un partage des ressources qui est fait et de nombreux échanges qui sont faits pour permettre l'inclusion de plusieurs initiatives. Par exemple, des audio descriptions, des œuvres d'art chorégraphiées par densité et également, donc, à la salle Wilfrid Pelletier, oui, pour la représentation de Traviata par l'Opéra de Montréal. Il y a une dizaine de personnes malvoyantes et des accompagnateurs qui ont pu participer, je disais, en visite tactile, mais également
théâtro, ce qu'ils appellent une.
Costumes.
Oui, tout à fait, ce qu'ils appellent une théâtro-description à l'Opéra de Montréal. Alors là, ça, c'est vraiment bien. Et le théâtre, le Centre du théâtre d'aujourd'hui offre également des services de ce genre-là, d'audio-description et de langue en langue des signes au Théâtre du Trident à Québec. Toujours à Québec, la compagnie de théâtre jeunesse Les Gros Becs travaille à la construction d'un nouveau lieu de diffusion qui va s'appeler la Caserne, scène jeune public qui sera située rue Dalhousie. La compagnie a consulté de nombreux organismes et personnes vivant avec un handicap pour s'assurer d'offrir le bâtiment le plus accessible et le plus inclusif qu'il soit. On a au Musée des arts d'art contemporain de Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, jusqu'au 18 août 24, tout l'été, une exposition qui s'appelle « Femmes, volcans, forêts, torrents ». Et c'est une exposition qui est accessible en audio-description. On le sait, le Musée d'art contemporain de Montréal a fait école, si je peux dire, en muséologie accessible. Voilà. Alors, on manque pas
et
de...
Également, on va avoir donc des représentations qui vont être adaptées à des personnes qui ont d'un trouble autistique, entre autres, donc avec des lumières tamisées, avec des espaces de repos pour les personnes qui en auraient besoin. Donc, on essaie d'ouvrir les possibilités pour des personnes qui ont des handicaps peut-être moins visibles également.
Oui, tout à fait. Et ça, c'est... il y a des bonnes et des belles choses qui se produisent dans le domaine de la culture et dans le domaine de l'emploi, du haut emploi. Une initiative qui favorise l'intégration en emploi des personnes vivant avec un handicap, ça bat son plein. On en parle souvent à l'automne parce qu'il y a des initiatives à ce moment-là. Mais ça dure, du haut emploi, ça travaille toute l'année. Il y a eu encore des stages au courant des derniers mois. 200,
oui, effectivement.
Allez-y, Élisane.
Pardon, François. Donc, effectivement, la semaine québécoise des personnes en situation de handicap, qui était la semaine dernière, on a annoncé donc qu'effectivement, le pôle du emploi, ça se passait très bien et qu'il va y avoir un investissement supplémentaire de 460 000 pour continuer l'initiative de duo emploi. Et ça va permettre, entre autres, 202 stages qui ont lieu dans tout au courant de la semaine dernière, et on va prévoir une augmentation de 47,4% des jumelages par rapport à l'année dernière. Donc, non seulement ça va bien, mais ça grossit comme initiative, François.
Oui, ben ça va de mieux en mieux, exactement. Des stages pour tous les goûts parmi les secteurs d'activité qui ont été offerts. Il se trouve entre autres le commerce de détail, la santé, l'éducation, l'agriculture, les services municipaux, les services à la petite enfance, la construction, les affaires. À noter que le taux d'emploi des personnes avec incapacité entre 25 et 64 ans était de 66 % en 2022. C'est une augmentation parce que depuis 2017, le taux donc d'emploi est passé de 56 à 66. C'est très bien. Évidemment, on peut dire qu'inversement, le verre plein ou à moitié vide, il reste encore 34 % de chômage. Mais tout de même, on avance, on va dans la bonne direction. Le Québec représente l'un des taux d'emploi les plus élevés chez les personnes vivant en situation de handicap au Canada. Alors, c'est avec des initiatives comme celle du CEMO ou encore du Haut Emploi que ben, tout ça se finit par arriver. Et avant que nous quittions, Élisane, je pense que c'est important de parler de quelques initiatives de l'INCA. L'INCA offre des groupes de soutien qui s'appellent le groupe le réseau Harmonie. Vous avez déjà travaillé à développer votre autonomie un peu en termes en lien avec votre handicap visuel et vous souhaitez poursuivre votre cheminement, point d'interrogation. Nos troupes Harmonie sont pour vous. Alors cet été, l'INCA offre l'opportunité d'y participer à distance ou en personne à Montréal. Ces groupes d'une durée de ce programme d'une durée de 5 semaines ont comme pour objectif d'élargir votre réseau social tout en développant votre autonomie et vous donnant des stratégies d'adaptation. Le groupe en personne aura lieu au hub communautaire de INCA sur la rue Parthenay à Montréal, près du métro Frontenac, les lundis après-midi dès le 29 juillet. Bon, ben, lundi après-midi, juste après 100 détours, on pourra y aller. Le groupe virtuel vous permettra de participer par téléphone ou en ligne via la plateforme Zoom. Et ce sera les mardis après-midi dès le 30. Alors, pour s'inscrire à ce groupe d'entraide et de soutien, ben, la date limite, c'est le il faut s'inscrire avant le 11 juillet et on communique à l'INCA au 514-934-4622. Il y aura également mercredi le 26 juin de 17 à 19 heures au hub de la rue Parthenay toujours de l'INCA le lancement de la nouvelle génération INCA. Et ça, c'est tout un programme, Élisane, qui permet aux familles qui comptent des jeunes qui vivent une situation d'handicap visuel, de prendre connaissance de tout ce qui existe au sein de l'INCA pour les aider et les soutenir. Là encore, l'inscription, la date limite est le 19 juin. Bravo! Voilà, c'est dit. Ben, merci beaucoup, Élisane. On espère que vous serez des nôtres.
Merci beaucoup, François. On se voit la semaine prochaine.
Ben, vous serez des nôtres la semaine prochaine ici en studio. Merci à Claire Guérin pour la recherche, Mathieu Tessier pour toutes ces découvertes musicales. Chaque fois surprenante. Bonjour tout le monde, à la semaine prochaine.
Après ces quelques messages,